I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Binge Audio.
Comment on repère quels signes doivent inquiéter, alerter ?
En fait, tu vas pas bien, tu t'en rends compte ?
Toute pathologie anxieuse ou dépressive, quand elle entraîne un retentissement, un handicap, une difficulté de fonctionnement et qu'elle dure, elle doit nécessiter une prise en charge.
Je rebondis. C'est un nouveau travail. Je suis en chemin.
Je crois qu'il faut normaliser le fait d'aller voir un psy.
C'est pas leur psychisme qui est défaillant, c'est la charge qui est trop lourde.
Tu devrais voir quelqu'un.
Qui ?
Ça a commencé très tôt, en fait. J'ai toujours eu des problèmes de comportement, un peu. Quand j'étais à la maternelle, par exemple, ça aurait dû inquiéter mes proches, mais une fois que j'avais vu un épisode de « Il était une fois l'homme », il montrait comment mettre le feu avec des silex et des bouts de bois. Et du coup, j'avais décidé de mettre le feu à la maternelle parce que je voulais plus y aller. Pareil, j'ai été virée de la sieste quand j'étais toute petite parce que je faisais trop le bazar et à la place de ça en fait on m'a fait plutôt sauter une classe. On est plus parti du principe que j'avais de l'avance qu'autre chose, que je m'ennuyais et que c'est pour ça que j'avais des comportements un peu étranges. Et puis ça a continué avec l'adolescence, bien sûr, ça a empiré avec les hormones, la dépression, etc. J'ai eu pas mal de harcèlement scolaire, donc du coup ça n'a pas aidé non plus, mais on mettait un peu mes mots là-dessus. Ma mère a fait une dépression postpartum quand j'étais toute petite, quand je venais de naître, et m'a confié donc à ma grand-mère. Donc, au lieu d'être abandonnée à la DAS, et donc là il y aurait un rapport, je pourrais savoir ce qui s'est passé, etc. Ça a été un non-dit, un secret familial en fait pendant assez longtemps. En plus, à l'époque, dépression postpartum, on savait pas ce que ça voulait dire. Je suis née en 88 et ma mère avait 38 ans. Donc j'étais la dernière de ses filles. Ça s'était passé normalement pour les deux premières. Donc j'avais pas de raison que ça se passe mal. Et dans mon malheur, en fait, j'ai eu la chance d'être élevée par mes grands-parents qui, eux, m'ont donné tout l'amour qu'on peut rêver avoir. Donc au final, j'ai été abandonnée d'un côté par les gens auprès de qui j'aurais dû avoir de l'amour inconditionnel. Et en fait, l'amour inconditionnel, je l'ai eu de mes grands-parents, mais pas très longtemps du coup, parce qu'ils étaient assez âgés. Ma mère était institutrice. Du coup, elle m'a eu dans sa classe en CP, CE1, CE2. Et donc du coup, je rentrais chez moi, qui était donc chez mes grands-parents, le soir, et je voyais ma mère, qui était mon institutrice à l'école, dans la journée, et que forcément, j'avais pas le droit de l'appeler maman, j'avais pas le droit de lui faire des câlins, et c'était mon institutrice, donc avec de l'autorité comme une mère, mais pas du tout le côté affectueux de la mère, pas du tout le côté aimant de la mère, et pour moi, ma vraie mère, c'était ma grand-mère, en fait. Et donc, quand je suis rentrée au bercail, c'était une double déchirure, puisque du coup, j'étais séparée de ma grand-mère, qui, elle, était la seule à m'aimer de manière filiale, en fait, de manière maternelle. Donc voilà, comment s'en sortir quand sa propre mère le dit les yeux dans les yeux, j'aurais jamais dû le faire, c'est ma plus grosse erreur. C'est très compliqué de digérer cette phrase-là, et les mots peuvent faire très mal, en fait. Et cette phrase-là, elle restera toujours, toujours gravée en moi. Il y a eu une première tentative de suicide quand j'ai eu 16 ans. Et là, on m'a forcée à voir une psy. Mais ça n'a pas bien fonctionné, puisque comme on me forçait à le faire, j'ai très très mal réagi. Et du coup, je ne lui parlais pas. Enfin, c'est moi qui l'ai fait pleurer deux fois. Donc voilà, j'étais pas très coopérative. Ensuite, on m'a laissée tranquille pendant quelques années. Et en fait, j'ai continué d'avoir des problèmes de comportement. Et mes amis me disaient, avec toute la bienveillance du monde, « Il faut que tu consultes, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Tu peux pas rester comme ça. Ça a l'air de te bouffer, de te faire du mal. » Et je disais non, je disais que j'avais pas de problème. Je disais que je croyais pas en la psychiatrie, que pour moi, c'était quelque chose de complètement barbare. Et puis... de pas mal patriarcal aussi, parce que dans ma tête, c'était surtout la psychanalyse et c'était surtout les théories de Freud. Et donc, du coup, ça me repoussait beaucoup. Et puis, il s'est passé plein de choses en quelques années qui étaient assez traumatisantes, donc à la fois dans ma vie perso, mais dans la vie publique en général. Donc, il y a eu les attentats de 2015, même si je n'ai pas été touchée personnellement, mais ça m'a pas mal bouleversée. Il y a eu le Brexit aussi, que je ne mets pas au même niveau, mais j'avais prévu de déménager en Angleterre, donc ça m'a fait un gros recul. Il y a eu l'élection de Trump aussi, ça m'a mis une grosse claque. Et puis notre monde tel qu'on le connaissait, c'est un petit peu déconstruit depuis ce moment-là. Et puis mon chat est mort. C'était un tout petit chat à peine sevré qui s'appelait Marlowe, donc un chat tout noir avec des grands yeux dans lesquels on plonge comme s'il n'y avait pas de fond, mais qui, comme il était à peine sevré, en fait, avait des gros soucis d'attachement. Et donc, du coup, il était tout le temps sur moi, tout le temps avec moi, tout le temps collé à moi. Si jamais je m'éloignais un petit peu trop de lui, il me grignotait le bout des doigts ou il devenait un petit peu plus possessif, quoi. Je crois que j'ai senti très tôt, intuitivement, que c'était un chat qui allait pas bien dans sa tête et que notre histoire, elle allait être courte et qu'elle allait être intense et qu'on allait passer par plein de hauts et plein de bas, mais que j'aimais quand même plus que tout. C'était un amour comme j'en avais jamais connu avec des humains, en fait. Et voilà, c'était le chat que j'avais pris pour essayer de reconstruire une famille, pour essayer de me faire une vie à moi, un petit cercle familial, d'essayer de reconstruire en fait ce que j'avais pas eu avec mes parents. Et j'avais mis tout mon amour dans cet animal. Et il avait que 2 mois quand je l'ai eu. Et il avait 2 ans quand je l'ai perdu. Et je me rappelle que j'étais en plein festival de rock en scène. C'était Falls qui chantait Spanish Sahara, qui est une très très belle chanson. Il est mort à 22h, donc au moment où Falls chantait cette chanson-là. Et je me suis dit, bon, là je suis au fond du trou, il faut absolument que je fasse quelque chose, je ne vais pas m'en sortir toute seule. Et je me suis dit aussi que si je faisais quelque chose pour aller mieux, le chat ne serait pas mort pour rien. Qui est là pour nous ramasser quand on a un deuil, mais que ce n'est pas un deuil qui est accepté par la société comme étant aussi important que... quand on perd un ami, un frère, une sœur, un parent. Alors que, bon, c'est discutable, mais ça reste un élément de la famille. Et moi, en l'occurrence, c'était le seul élément de ma famille à moi. Donc, en fait, la perte, elle était immense. Du coup, là, je voyais plus d'à quoi bon. C'est-à-dire que mon boulot, je le faisais pour payer les frais du vétérinaire, mais les frais du vétérinaire, je les payais pour un chat qui n'était plus là. Donc, j'avançais pour quelque chose qui était du passé et j'avais plus d'avenir, j'avais plus de projet. Je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit 2 choses. La première, c'est il faut que je reprenne un chat tout de suite. Et la deuxième, c'était il faut que je voie un psy le plus vite possible. Donc j'ai commencé à me renseigner, mais à l'époque, je gagnais vraiment pas assez bien ma vie. Donc je suis allée dans un CMP, un centre médical psy. Là, j'ai été reçue par une infirmière qui a été géniale avec moi. Et honnêtement, à chaque fois que j'ai été prise en charge, c'est toujours les infirmières qui ont été les plus dévouées et les plus utiles pour moi, en fait. Et cette infirmière, elle m'a écoutée pendant 1 heure. Donc, faut savoir que c'est gratuit, hein, donc c'était super pour moi. Et elle m'a dit, maintenant, ça va être long le processus, mais vous avez fait le plus dur, c'est-à-dire de demander de l'aide, quoi. Et donc, j'ai fait un premier entretien pour voir si je pouvais entrer dans ce programme, qui est censé être un programme pour les étudiants à la base. Le monsieur qui m'a reçu était très bien, donc du coup, je me suis dit, finalement, peut-être que j'avais des a priori sur la psychanalyse. Et en fait, au final, c'est pas avec ce monsieur-là que j'étais en thérapie. Et le monsieur avec qui j'étais en thérapie, lui, était vraiment si on faisait une série comique à la The Office avec un psy, ça serait ça. C'est-à-dire, il me disait, si tu aimes tant l'Angleterre, c'est parce qu'il faut traverser la mer et toi, tu veux te confronter à ta mère, M-E-R-E. Voilà, ce genre de choses très très profondes qui sortaient de nulle part, alors que je lui avais jamais spécifiquement parlé de ma mère ou quoi que ce soit. Et puis, pire que tout, il me réclamait de l'argent, alors que clairement, j'étais là parce que j'avais pas d'argent. Ça suffit, j'ai claqué la porte. Et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder une série qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend, avec une héroïne où on comprend dès le début, de toute façon c'est dans le titre, qu'elle a un grain, qu'elle est un peu dérangée. Mais on ne sait pas ce qu'elle a, parce qu'elle non plus, elle ne se fait pas aider. Et en fait, ce qui l'aide vachement, c'est les chansons, c'est ces petites histoires qu'elle se joue dans sa tête. Mais jusqu'à la saison, alors je ne sais plus si c'est 3 ou 4, elle ne se fait pas aider. Il faut vraiment qu'elle touche le fond pour pouvoir ensuite rebondir et aller voir un psy ou une psy. Et en l'occurrence, elle va voir quelqu'un qui met un diagnostic sur ce qu'elle a assez rapidement. Et en fait, quand on a l'épisode du diagnostic, il y a les 10... symptômes du trouble borderline qui sont énoncés très clairement dans la série.
Bon, premier critère, des variations d'humeur prononcées.
Et moi, en regardant ma série, assise dans mon lit, à moitié la tête sur mon téléphone, je me suis dit dans ma tête, ah mais c'est étrange.
Une peur profondément ancrée d'être abandonnée.
Moi, j'en ai 9 sur 10 des symptômes de ce trouble.
Une instabilité dans les relations personnelles.
Et du coup, je me suis dit, bon, je suis pas du genre à aller sur Doctissimo à me trouver des cancers du doigt de pied, des choses comme ça.
Des perturbations de l'identité.
Et j'ai changé des messages avec une amie qui regardait aussi la série.
De la paranoïa ou des crises dissociatives épisodiques.
Et au bout d'un moment, quand j'ai vu la liste des 10 symptômes...
Des colères excessives et récurrentes.
J'ai dit à mon amie, mais toi aussi tu te reconnais dans cette liste.
Des sensations de vide intérieur.
Parce que j'étais assez parano dans le sens où je me suis dit, mais tout le monde doit se reconnaître dans cette liste, c'est pas possible que ça n'arrive qu'à moi.
Un comportement impulsif.
Et elle m'a dit, oh bah vaguement, j'ai 1 ou 2 sur 10. Et moi, tu me reconnais dans la liste?
Et pour finir?
Et là, elle m'a dit, il vaudrait peut-être mieux que t'en parles avec ta psychiatre qu'avec moi.
Des menaces ou des gestes suicidaires à répétition.
Et je me suis dit, ok, elle a répondu. Elle a répondu... à ma question, quoi, qu'effectivement, je collais bien à ce diagnostic et pour cause, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, on va en parler à ma psychiatre. Ça se trouve, c'est une série, c'était écrit pour que tout le monde se sente concerné. Ça se trouve, c'est moi qui me fais des idées. Et ma psychiatre était du genre à dire, oui, on pourrait dire ça, mais en même temps, j'ai pas envie de vous poser de diagnostic parce que ça va vous enfermer dans quelque chose. Sauf que moi, j'avais besoin d'un diagnostic, en fait. Et j'aurais aimé qu'elle me dise, est-ce que vous préférez avoir un diagnostic ou pas? Et en fait, c'est en sortant de chez cette psy que j'ai été très, très déçue. Quand elle m'a dit qu'elle ne voulait pas me poser de diagnostic, où là, je me suis dit, non. Du coup, elle me dit oui, ça correspond. Mais en même temps, je le garde pour moi, ce diagnostic. J'avais l'impression que la réponse était à portée de main et que tout d'un coup, on me claquait la porte au visage en me disant... la réponse, elle va t'enfermer dans un placard, alors que finalement, quand j'ai eu ma réponse, ça m'a ouvert des horizons. Et là, il se trouve que, par un concours de circonstances, j'ai eu une augmentation. Et donc, du coup, j'ai enfin eu assez d'argent pour consulter, et je suis allée voir quelqu'un, une psychologue. Alors, cette fois, j'ai pris une femme, parce que, j'ai été échaudée une fois avec un homme psychanalyste, donc j'ai pris une femme pas psychanalyste, une femme qui fait de la thérapie cognitivo-comportementale, qui, en fait, à la première séance, m'a laissé parler, puis m'a coupée et m'a dit « Mais on vous a déjà parlé du trouble borderline ?» Et j'ai dit « Alors oui, on en a déjà parlé et je me suis déjà reconnue là-dedans, mais on m'a pas diagnostiqué, en fait. » Et donc ça, c'était parti. Elle m'a envoyée vers un psychiatre qui, lui, tout de suite, quand il m'a vue, m'a dit que je pouvais être le cas d'école, en fait, du trouble borderline. Le trouble de la personnalité limite est principalement caractérisé par la peur du rejet et de l'abandon, l'instabilité de l'humeur, la difficulté à contrôler ses pulsions, les relations interpersonnelles instables, une difficulté avec l'intimité, une dissociation et une méfiance importante en présence de stress. Et donc moi, j'avais tout ça, sauf le symptôme dissociatif sévère, mais je l'ai eu après. C'était à la fois un soulagement et puis une sorte de gros abattement, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais le nom de la montagne, mais j'étais au pied, il fallait la gravir, quoi. C'était un mélange de « j'y crois pas » et en même temps de « ah, et si il y avait une réponse à tout ce que j'ai ?» Un peu le même cheminement que l'héroïne dans la série. C'est « ah, ça y est, je vais peut-être avoir un diagnostic » et en même temps, le couperet derrière qui me dit « mais c'est pas cool comme diagnostic en fait. » C'est un diagnostic où il y a 10% des gens qui meurent de suicide où on passe toute sa vie sur un divan, où on n'est jamais vraiment guéri, même si ça va mieux quand on vieillit, etc., etc., etc. Et pour moi, très clairement, la source de mon trouble borderline, c'est cet abandon, mais qui n'a jamais été reconnu par mes parents, même à l'heure actuelle, en fait. Pour eux, ils pensent que je me plains de choses qui n'existent pas, qu'ils ont été là pour moi puisque je n'ai manqué de rien, j'ai toujours eu à manger, j'ai toujours eu des vêtements, j'ai toujours eu tout ça. Pour eux, le manque d'amour, c'est pas un manque. Et le fait de ne pas être là pour moi, pour eux, c'était pas grave puisque quelqu'un d'autre était là pour moi, en fait. Vraisemblablement, il faut que je fasse mon deuil du fait qu'un jour ils se rendent compte de ce qu'ils m'ont fait, et c'est juste que là j'ai préféré couper les ponts avec eux plutôt que de continuer de vivre un peu une mascarade où je continue à être le bouc émissaire en plus. Et je me porte beaucoup mieux depuis que je suis plus en contact avec eux. Donc c'est un tabou aussi que j'ai levé, qui est le tabou de est-ce qu'on est obligé de poursuivre coûte que coûte une relation avec ses parents, même si celle-ci est complètement complètement maladive et complètement nocive, oui. C'est une réponse à des questions que je me posais depuis 30 ans, en fait. Et pour une fois, au lieu d'avoir plus de questions, je pouvais avoir plus de réponses. Mais je pense qu'il y a effectivement des gens que ça enferme d'avoir un diagnostic. Moi, il se trouve que j'ai tellement erré qu'une fois qu'on m'a posé ce diagnostic et que j'ai pu vraiment savoir où j'allais, pouvoir m'orienter, me renseigner, lire des livres, voir quel genre de thérapie était la bonne. J'ai même rejoint des groupes Reddit, j'ai vraiment pu me trouver une sorte de communauté en fait, même si c'est pas une communauté par affinité, c'est une communauté par défaut. Au moins, on est ensemble quoi, et on peut se soutenir. Avant, j'étais toute seule, et depuis que j'ai le diagnostic, j'ai des gens avec qui en parler.
Bon. Voilà, d'après les conversations que j'ai eues avec le docteur Akopian et d'après nos entretiens à l'hôpital, vous manifestez de nombreuses caractéristiques d'un trouble de la personnalité borderline.
Alors du coup, c'est ma psychologue qui m'a beaucoup aidée. Elle fait des thérapies courtes et donc du coup, on se concentrait sur des problématiques et donc à chaque fois, on regardait comment je pouvais améliorer mon comportement. Et à côté de ça, moi, je lis beaucoup, donc j'avais le manuel du borderline. C'est comme si je faisais des exercices de vacances. Sauf que moi, je rentrais du boulot le soir et je me mettais à un chapitre par jour à essayer de voir comment je pouvais aller mieux. Et en fait, je suis allée mieux très rapidement une fois que j'ai eu mon diagnostic.
Alors, voyons voir. Exercice numéro 1, scannez votre corps afin de détecter tout signe potentiel de détresse.
Et bien sûr, j'ai été médicamentée aussi. Ça, faut pas non plus l'oublier. C'est que la thérapie, c'est très bien et c'est indispensable pour ce que j'ai, mais les médicaments m'ont aidée aussi. Donc on a mis longtemps à trouver le bon antidépresseur pour moi. Mais voilà, mais ma nouvelle psy m'a trouvé mon nouveau psychiatre qui est un ponte dans le genre et qui m'aide énormément. Et donc là, actuellement, j'ai deux traitements. Un antipsychotique, même si je ne suis pas psychotique, ça c'est pour me donner un coup de boost. Donc il ne faut pas avoir peur du nom des médicaments. Parfois, ils sont très impressionnants, mais ils sont là pour notre bien. Et puis un antidépresseur. Et il y a un an, je me suis fait aussi reconnaître comme travailleuse handicapée. Donc j'ai obtenu la RQTH, ce qui me permet maintenant, si je retrouve du travail, de faire valoir mon handicap et d'avoir par exemple des horaires adaptés. Et ils sont censés être assez sympathiques pour me faire un emploi du temps qui soit adapté. Mais ça, c'est la théorie. Après, en pratique, ça m'a donné accès à une job coach. Je vais faire un bilan de compétences aussi grâce à la MDPH. Donc, ça permet plein de choses comme ça que j'aurais pas imaginé à la base. Et comme je suis tombée sur des gens bienveillants et sur les bons psys, je pense que tout peut arriver et que et que si ça va pas, et ben il faut passer à quelqu'un d'autre et que de toute façon, comme à chaque fois, j'ai été secouée par des événements extérieurs, que ce soit la mort de mon chat ou cette série que je regardais un peu par hasard, je pense que à un moment le destin frappera encore à nouveau et me dira oui, en fait, finalement, c'est là que tu dois bosser et ça va bien se passer, quoi.
Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené par Adélie Punchman-Ponté. Réalisation, Paul Berthiaud. Production, Naomi Titi.
Découvrez vite la première ovo-sitcom de Paradiso Media, Marie et les œufs en neige.
Marie, c'est moi, et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants, et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes? Comment j'en suis arrivée là? Est-ce que j'en veux des enfants? Et surtout, pourquoi on fait des enfants en fait? Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple.
Marie et les œufs en neige, c'est une série en 6 épisodes à écouter dès maintenant dans le podcast Journal Intime.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.